Les zones d'ombre de l'histoire.
Dès le début, on l'appela la bête, ou la bête féroce, et on l'affubla de pouvoirs surnaturels. Le 31 décembre 1764, alors qu'elle sévissait déjà depuis 6 mois, l'évêque de la paroisse de Mende prononça un sermon qui restera dans les annales sous le nom de Mendement de l'évêque de Mende, et dans lequel il affirmait que l'animal était envoyé par Dieu pour punir les hommes de leurs péchés, appelant à la repentance. Dès lors, la légende était en marche, et aujourd'hui encore, alors que l'on sait à peu près ce qui s'est passé, on l'appelle toujours la bête. Elle a inspiré des romans, des livres plus ou moins sérieux, mais aussi des films, des documentaires, et même des jeux vidéo et un jeu de société. Aujourd'hui, durant les fêtes de Mende, le char qui ouvre le défilé est le char de la bête. Je vous propose donc de retourner en pays gévaudan pour marcher sur les traces de la bête.
Connais-tu l'histoire que me racontait ma nounou? C'est une belle histoire que j'écoutais sur ses genoux. Si le cœur t'en dit, ma jolie, écoute-moi, je vais te la dire à mi-voix. Elle était une fille douce et tendre comme toi, tout aussi gentille, se promenait dans les bois. Et voilà soudain qu'en chemin elle aperçoit le grand méchant loup aux abois. Ouh, cha-cha-cha du loup. Ouh, cha-cha-cha du loup. Cha-cha-cha du loup. Tu es encore à l'âge où les filles ont peur de nous. Tu es bien trop sage pour venir sur mes genoux. Mais je t'aime bien, ne crains rien, approche-toi, je ne te mangerai pas. Ne sois pas cruelle, viens dans mes bras, ma jolie. Viens plus près, ma belle, et ne tremble pas ainsi. Je ne te ferai aucun mal, je ne suis pas le grand méchant loup aux abois. Ouh, cha-cha-cha de loup. Ouh, cha-cha-cha de loup.
Le loup attaque rarement l'homme. Il faut, pour que cela se produise, un certain nombre de conditions, comme par exemple la raréfaction du gibier sauvage dont il se nourrit normalement. Alors seulement, le loup peut devenir anthropophage. Entre 1732 et 1734, par exemple, un loup va commettre plusieurs attaques mortelles dans l'Auxerrois. Et durant 2 ans, à partir de 1754, un animal va aussi s'en prendre à l'homme dans la grande région lyonnaise. Toutefois, peut-être à cause de la moindre proportion de victimes, ces affaires n'auront pas l'incidence historique que les événements qui vont se produire dans la région du Gévaudan à partir du mois de juin 1764. La province où vont se dérouler les attaques se situe à peu près dans l'actuelle Lozère, mais on y rattachera aussi des victimes du Cantal, de l'Aveyron et de l'Auvergne. Le Gévaudan est alors une région très forestière, avec une faible densité de population, occupant des hameaux isolés les uns des autres, reliés par de mauvaises voies de communication. Le terrain vallonné est aussi marécageux en certains endroits, et les hivers y sont souvent longs et rudes. Ces circonstances auront leur importance dans cette histoire. La première attaque recensée a lieu à la fin du mois de juin 1764, dans le village de Langogne. Une jeune bergère est attaquée, mais son troupeau la protège. Le 30 juin, en revanche, la jeune Jeanne Boulet n'a pas cette chance. Gardant un troupeau dans le hameau de Hubac, tout près de Langogne, elle sera mortellement atteinte. Enterrée le lendemain, il est écrit sur l'acte de décès qu'elle a été attaquée par une bête féroce. Le 8 août, dans le hameau de Masmejean, c'est un garçon de 14 ans qui perd la vie. Jusqu'en septembre, d'autres attaques se produisent, aux alentours de la forêt de Mercoir et dans la vallée de l'Allier. Des battues improvisées sont organisées, mais cela ne donne rien. L'administrateur du diocèse de Mende, Étienne Lafont, mobilise des chasseurs en renfort, mais la bête reste introuvable. Il avertit alors l'intendant du Languedoc et le comte de Montcamp, commandant militaire de la région. Le comportement de l'animal surprend. Il n'a pas peur de l'homme. C'est inhabituel pour un loup. De plus, les quelques témoins oculaires décrivent une bête plus grosse qu'un loup, avec un pelage de couleurs différentes. À partir du 15 septembre, les battues reçoivent le renfort des soldats du régiment de Clermont-Prince, sous la direction du capitaine Duhamel. Mais non seulement aucun animal ne correspondant à la description n'est capturé ou tué, mais surtout, ces battues ont peut-être eu pour effet de faire changer la bête de territoire pour se réfugier vers l'Aubrac. Le 7 octobre, une jeune fille est attaquée dans la paroisse de Prunières. Elle ne survit pas à ses blessures. Le lendemain, deux nouvelles attaques se produisent, mais sans faire de victimes. Il s'en est fallu de peu, toutefois. Un jeune vacher s'est réfugié derrière son troupeau, ce qui lui a sauvé la vie. Durant cette attaque, des paysans réussissent à tirer sur l'animal, qui tombe par deux fois, mais se relève et parvient à s'enfuir dans les bois. Les paysans se lancent alors à sa poursuite, et deux d'entre eux pensent voir une bête qui court en boitant. Mais ils ne parviennent pas à la rattraper. Ils parlent d'un animal de taille supérieure au loup, encore une fois. L'hiver s'installe et de nouvelles attaques se produisent, notamment dans la paroisse d'Hermaux, où les hommes du capitaine Duhamel arrivent le 2 novembre. Mais les importantes chutes de neige retardent le début des battues, qui ne commencent que le 11. Elles restent sans effet. Devant cet échec, les états généraux du Languedoc se réunissent et offrent une prime à toute personne qui parviendra à attraper ou tuer l'animal. La peur s'est maintenant installée dans la province. On dénombre 5 nouvelles victimes en décembre. Et le 31 décembre 1764, Gabriel Florent de Choiseul-Beaupré, évêque de Mende, prononce un sermon repris par tous les prêtres du diocèse et dans lequel il évoque une bête envoyée par Dieu pour châtier les hommes de leur mauvaise conduite. Il appelle aux prières et à la repentance.
Thank you.
les zones d'ombre de l'histoire sur Radio Campus Paris.
Les victimes de la bête du Gévaudan sont essentiellement des enfants ou des adolescents, et dans de nombreux cas, des vachères ou vachers. La région est une terre d'élevage, et hormis les moutons, qui sont gardés par des bergers, les autres troupeaux sont confiés aux enfants de la famille. C'est souvent la première tâche qu'on leur confie. Ces gardiens de troupeaux sont des proies très faciles. Alors, on recommande de regrouper les troupeaux. Le 12 janvier, la bête s'attaque à 7 vachers. Ils parviennent à la mettre en fuite, mais elle revient à la charge. Le jeune Jacques Portefaix parvient au prix d'un courage inouï à la faire fuir, alors qu'elle s'est attaquée à lui. Cet exploit sera rapporté à Louis XV, qui paiera les études du jeune garçon. Mais le 9 février, une fillette est tuée dans la paroisse de Malzieu. La colère commence à s'installer et les soldats sont les premiers visés. Les paysans doivent parfois les loger et les nourrir. Ils mettent le désordre sur leur passage et ne sont toujours pas parvenus à mettre l'animal hors d'état de nuire. Le louvetier d'Esneval, qui a la réputation d'être le meilleur louvetier du royaume, est envoyé sur place par M. de Laverdy, le conseiller du roi. Les d'Esneval, père et fils, flanqués de quelques chasseurs, arrivent dans la province début mars. Le 14, la bête fait à nouveau son apparition dans le village de Saint-Alban. Elle s'en prend à une fillette. Sa mère arrive à la mettre en fuite, mais l'animal revient et s'empare d'un petit garçon qui mourra le lendemain de ses blessures. Dès le début, le courant ne passe pas entre le capitaine Duhamel et les d'Esneval qui obtiennent le départ des soldats. Les louvetiers établissent une nouvelle stratégie. Rabattre la bête vers le village de Prunières, où le terrain lui sera plus défavorable. Mais l'opération est un échec, et en ce mois d'avril 1765, la presse s'empare de l'affaire. Quelques journaux français, mais aussi anglais, y consacrent des articles. Dans certains d'entre eux, le pouvoir royal et les louvetiers sont raillés, impuissants face à un vulgaire loup qui leur tient tête. Le 1er mai, une bête surgit près de Saint-Alban et se jette sur un enfant. Mais un homme voit la scène. Bon tireur, il s'empare de son fusil et touche l'animal qui tombe, se relève et parvient avec difficulté à se mettre à couvert. On pense qu'il est mortellement atteint. Les d'Esneval sont sur place le lendemain et commencent à ratisser les environs. Mais l'après-midi même, on dénombre une nouvelle victime dans la paroisse de Venteuge. Pour le marquis de Morangier, c'en est trop. Qui sont ces louvetiers qui ne parviennent pas à abattre une bête déjà blessée? Il écrit au roi pour se plaindre des d'Esneval, des incapables selon lui. À la cour de Versailles, on ne peut plus faire la sourde oreille. Et le 8 juin, Louis XV décide d'envoyer sur place François-Antoine, son porte-arquebuse, qui part flanqué d'une vingtaine d'hommes dont 8 capitaines de la garde royale et des gardes-chasse chevronnés. Tous arrivent à Malzieu le 22 juin et les d'Esneval quittent la région sur ordre du roi. François-Antoine étudie les traces laissées par la bête. Il est catégorique. Il s'agit d'un loup, certes de bonne taille, mais ce n'est rien d'autre qu'un loup. Mais François-Antoine connaît mal la région et s'aperçoit qu'il lui faut du renfort. Il demande en particulier qu'on lui envoie des chiens. Le 11 août, la jeune Marie-Jeanne Vallet est attaquée, mais elle parvient à blesser l'animal grâce à une lance. Il parvient à s'enfuir, mais perd beaucoup de sang. Arrivant le jour même sur place, François-Antoine étudie les traces. Elles correspondent à celles qu'il a déjà observées. Le 29 août, une bête est repérée en embuscade dans le bois noir. Des chasseurs lui tirent dessus. Elle parvient à s'enfuir, mais son cadavre sera retrouvé 2 jours plus tard. Les hommes de François-Antoine étudient la dépouille et établissent qu'il s'agit d'un croisement entre un chien et un loup. Il a une raie noire sur le dos et la cicatrice d'une ancienne blessure à la patte gauche, probablement due à un tir. On se prend à croire que la bête du Gévaudan a enfin été abattue. Mais le 2 septembre, une nouvelle attaque se produit. Le 20, un animal est signalé rôdant près du village de Saint-Julien-des-Chazes. Aucune attaque ne s'était jamais produite dans cette partie de la région. Mais le porte-arquebuse et ses hommes s'y rendent et cernent le bois. Prise au piège, la bête se jette sur François-Antoine, mais un garde-chasse tire et l'abat. Elle sera reconnue par Marie-Jeanne Vallet et plusieurs autres témoins victimes d'attaques. Empaillée à Clermont-Ferrand, l'animal sera emmené le 27 septembre à Versailles et exposé à la cour en octobre. François-Antoine et ses hommes restent dans la région quelques semaines de plus, car une louve et ses petits ont été signalés. Ils quittent le Gévaudan au début du mois de novembre.
Les zones d'ombre de l'histoire.
Le Gévaudan est donc débarrassé de sa bête, du moins le croit-on. Car durant l'hiver 1765, de nouvelles attaques se produisent dans les villages de Saugues et Lorcières. Au printemps 1766, quelques attaques sont recensées sur un territoire plus restreint, celui des Trois-Monts. Certains pensent qu'il s'agit d'un nouvel animal, mais d'autres se disent que François-Antoine n'a pas abattu la bête qui les terrorise déjà depuis près de 2 ans. Le roi est à nouveau sollicité, mais à la cour, on ne veut plus entendre parler de cette histoire. Pour le roi, l'affaire est entendue, son porte-arquebuse a bien tué la bête du Gévaudan. Alors, on organise de nouvelles battues et on dissémine des cadavres de chiens empoisonnés. Mais rien n'y fait. L'animal fait toujours des victimes, mais ses attaques sont moins fréquentes et il semble moins hardi, comme le remarque l'abbé de Lorcières dans une relation des événements. L'année 1766 se termine et les attaques sont moins fréquentes. Et au début de 1767, on n'en recense plus aucune. Mais le 18 juin, une bête est vue dans la paroisse de Nozérolles. Le même jour, la jeune Jeanne Bastide est tuée dans le village de Lesbinières. Les habitants sont abasourdis. Et l'on s'en remet à Dieu, tant l'impuissance est totale. Le 19 juin, une battue est décidée par le marquis d'Apier. Sur le mont Mouché, dans le bois de la Thénazère, le chasseur Jean Chastel abat un gros loup, au lieu dit la Sogne d'Auvert. Cet homme n'est pas un inconnu. Un peu moins d'un an auparavant, le porte-arquebuse François-Antoine avait ordonné son emprisonnement, ainsi que celui de ses deux fils, pour un affront fait à deux de ses hommes. Une louve sera tuée le 25 juin, dans la paroisse de l'abbé Serre-Saint-Méry. Elle avait été vue en compagnie de l'animal tué par Jean Chastel 6 jours plus tôt. Il n'y aura plus jamais d'attaque dans la région du Gévaudan. Mais on avait déjà commencé à construire la légende. Créature envoyée par Dieu, loup-garou ayant des pouvoirs surnaturels, comme le don d'ubiquité, on a aussi parlé d'une hyène ou d'un animal exotique échappé d'une ménagerie. Au début du XXe siècle, on a même émis l'hypothèse d'un animal dressé spécialement pour servir de bras armé à un tueur en série, et l'on a désigné le comte de Morangiers ou le fils de Jean Chastel comme les dresseurs potentiels. La bête du Gévaudan fera environ 80 morts et un peu plus d'une trentaine de blessés, pour un total d'à peu près 120 attaques, auxquelles il faut ajouter une cinquantaine d'attaques en Auvergne et à peu près autant dans le Languedoc. La relative imprécision des chiffres tient notamment au fait que parfois l'Église a refusé de consigner certaines victimes au motif qu'elles appartenaient à des familles mal considérées. Certaines familles ont aussi pu faire passer leurs morts pour des victimes de la bête alors que l'origine du décès était autre. En réalité, il y a sans doute eu plusieurs bêtes du Gévaudan, peut-être entre 4 et 6. Il a pu s'agir de gros loups ou de chiens croisés avec un loup. L'animal tué par François-Antoine pesait environ 65 kilos, et celui abattu par Jean Chastel pesait 50 kilos. Les loups qui parcourent nos régions sont aujourd'hui de taille inférieure, mais leur gibier est plus rare. Ils se sont donc adaptés. C'est sans doute aussi à cause d'une raréfaction temporaire du gibier à l'époque des faits, notamment à cause de la chasse et de l'accroissement des terres agricoles, que des loups sont devenus anthropophages. Des faits similaires, mais de moindre ampleur, s'étaient produits en France à la même époque. François-Antoine sera autorisé par le roi à graver un loup sur son blason, attestant qu'il a bien tué la bête du Gévaudan. Jean Chastel, quant à lui, ne touchera que 1500 des 6000 livres de la prime promise par le roi. En 1889, dans un ouvrage sur la bête du Gévaudan, l'abbé Pierre Porcher écrira que Jean Chastel prit le temps de terminer ses prières avant d'armer son fusil et de tirer sur la bête. On dit aussi qu'il s'adressa à l'animal en ces termes avant de faire feu « Tu n'en mangeras plus ». Que reste-t-il aujourd'hui de la bête du Gévaudan ? La dépouille ramenée par François-Antoine à la cour de Versailles fut mal empaillée. Elle dégageait une telle odeur qu'elle fut bien vite enterrée. L'animal abattu par Jean Chastel fut peut-être examiné par le célèbre naturaliste Buffon. Mais si tel est le cas, on n'a jamais retrouvé de documents relatant cet examen. Puis il fut apparemment enterré dans le jardin de l'hôtel de M. de La Rochefoucauld, qui partageait un lointain ancêtre avec le marquis d'Apcier, celui qui fut à l'origine de la battue fatale au dernier animal. Cette demeure, qui se situait rue de Seine à Paris, fut détruite en 1825. Je vous conseille la lecture du livre de Jean-Marc Morisseau, « La bête du Gévaudan, mythe et réalité », paru aux éditions Talendier. Et je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode des Zones d'ombre de l'histoire.